CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous dans ce MAG un peu spécial. On vous fera un retour sur les éco-rendez-vous du pays Midi Quercy. C'était vendredi dernier, c'était à Nègrepelisse. Toute une matinée ouverte aux acteurs du tourisme, c'était au château de Nègrepelisse. Et le pays Midi Quercy invitait les membres du Shift Project pour avancer concrètement vers une transition écologique. On avait une conférence des shifters suivie d'un buffet papote avec les personnes ressources du territoire pour répondre à toutes vos questions sur la gestion des déchets, sur la mobilité, l'offre de randonnée, l'approvisionnement en produits locaux, les économies d'énergie et surtout pour se rencontrer et échanger entre professionnels du tourisme, du territoire, du pays Midi Quercy. Un MAG aujourd'hui et demain sera consacré à un retour sur cette journée de vendredi dernier. Donc demain, on entendra beaucoup d'acteurs et professionnels du tourisme qui étaient présents sur place. Aujourd'hui, c'est avec les Shifters.
Lambert Sébastien, shifter depuis 5 ans.
Laurent Lagarde, shifter depuis 2 ans et demi maintenant.
Emmanuel, shifter depuis 1 an et demi.
Alors c'est quoi les shifters ?
Donc les shifters, c'est une association uniquement de bénévoles dédié à porter la parole fournie à travers les rapports du Shift Project. Shift Project qui est en fait une association dédiée à la décarbonation de l'économie et à porter un plan pour la transformation de l'économie française.
Il y a déjà 15 ans, le Shift Project. Vous les shifters, vous avez été invités par le pays Midi Quercy pour animer une matinée autour donc, du tourisme et des déchets, de la mobilité, de l'énergie, de l'alimentation. Et sur les communes donc, de Saint-Antonin, de Caussade et Nègrepelisse, vous avez croisé quelques données de manière à nous indiquer qu'il va faire chaud dans quelques années. En fait, hein. Vous avez fait bien peur là en arrivant en introduction.
Ça a un peu choqué les gens, je crois. En effet, ce que l'on observe globalement, c'est qu'on va avoir des périodes concernant le tourisme qui vont être très très chaud en été. Et il va falloir adapter peut-être le tourisme avec des périodes plus au printemps et plus à l'automne. Et avec des périodes vraiment très chaudes, puisqu'on pense 45-50 degrés peut-être dans le pays Midi-Quercy en été. Et donc c'est une des gros paramètres à prendre en compte, avec en plus des risques de feu qui seront plus présents qu'avant.
Et de précipitations, on l'a vu là encore récemment.
Oui. Précipitation, on le voit aujourd'hui, un des changements climatiques, et on commence à le sentir de plus en plus, c'est l'augmentation des phénomènes violents. Donc par exemple, si on prend le cas des précipitations actuelles, on sait que ces précipitations auraient eu lieu, mais très clairement, elles n'auraient pas été aussi violentes qu'actuellement au niveau métropolitain.
Vous nous avez annoncé plus 1,5 degré pour 2030, plus 2,7 degrés en 2050. Et quelqu'un dans l'Assemblée a dit, mais en fait, 3 ou 4 degrés, après, c'est plus possible.
Oui, c'est vrai. Ça va rendre les effets qu'on discutait sur la pluie, sur la chaleur, les effets extrêmes vont être amplifiés. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on essaye de proposer des pistes que chaque individu ou chaque société ou chaque commune puisse agir au quotidien pour agir à son niveau, pour décarboner et essayer de réduire cet impact carbone et pour que la planète soit vivable et soit toujours belle et que continue en fait à profiter du pays de Quercy.
Mais pardon, mais là, en fait, selon vos études, c'est foutu. On n'a plus qu'à partir.
Alors il y a un milliardaire il y a quelques années qui a dit que c'est pas grave, on irait sur Mars. Maintenant ils viennent de dire qu'on allait sur la Lune. Mais néanmoins non, c'est pas foutu. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'homme fasse ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il s'adapte. Maintenant il va falloir que l'adaptation se fasse vite et de plus en plus vite, parce que en face ça s'accentue très vite, c'est exponentiel. Non, c'est pas foutu, mais il faut que les gens prennent conscience et prennent en charge dans toute leur activité, dont le tourisme.
Alors on a parlé donc de l'effet de serre, des températures, des précipitations, des feux de forêt, donc de l'eau, de la modification des écosystèmes que ça va engendrer. Alors qui dit eau dit la nourriture, les infrastructures, la santé, tout ça est impacté. Et j'ai pas encore parlé des boucles de rétroaction. Quel est ce principe ?
Alors, les boucles de rétroaction, en fait, je peux prendre un exemple relativement simple. C'est que plus on émet de gaz à effet de serre, plus la température augmente. Et plus la température augmente, plus il y a de vapeur d'eau. Or, quand il y a plus de vapeur d'eau, il fait plus chaud. Voilà un exemple classique de boucle de rétroaction où un effet s'auto-amplifie. L'autre exemple, ça peut être plus il fait chaud, plus les neiges fondent, plus les terres gelées qui emmagasinent énormément de méthane, ce qu'on appelle le permafrost, fond lui également et dégage ce méthane qui amplifie le gaz à effet de serre, qui amplifie les effets de l'effet de serre, de sorte que les températures augmentent encore plus. Voilà ce qu'on appelle une boucle de rétroaction.
C'est encore plus foutu.
Non.
Vous avez dit à l'Assemblée, donc, qui était réunie aujourd'hui à Nègrepelisse, invitée par le pays Midi-Quercy, qu'on avait possibilité, si on sortait fort les avirons, de baisser d'un tiers nos émissions. Ou alors j'ai mal suivi.
C'est exactement ça. Les efforts individuels ne permettront pas d'atteindre la neutralité carbone qui oblige en fait à baisser de 4/5 notre bilan carbone. Il faut certes agir individuellement, mais c'est aussi au niveau des structures politiques, des structures publiques, de l'environnement, des services publics, que tout ça aussi se joue. Et c'est la raison pour laquelle on insiste aussi sur le fait qu'on n'est pas là pour culpabiliser les gens en leur disant que c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui on en est là et qu'il suffit de faire des efforts. Non, il faut certes faire ces efforts-là, mais il faut aussi que, à côté, que ce soit les entreprises, que ce soit les services publics, on agisse tous dans le même sens pour permettre cette diminution nécessaire.
C'est un changement sociétal, en fait. C'est aussi pour ça que c'est important de s'impliquer, de participer aux élections, de faire entendre sa voix, de demander en fait qu'on arrête les grandes métropoles, qu'on essaye d'utiliser plus les ressources locales, manger local, d'essayer de pouvoir moins se déplacer, mieux utiliser ses ressources et être raisonnable dans nos consommations, dans nos dépenses, agir comme consommateur et comme citoyen.
Vous avez donné quelques pistes du genre autour de l'alimentation, effectivement consommer local. Bon, c'est la viande qui consomme le plus, enfin qui dégage le plus de CO2, d'autant plus quand c'est du bœuf, d'autant plus quand il vient de l'autre bout du monde. Ça, c'est des choses, on aurait tendance à se dire que si on ne le sait pas, il faut retourner à l'école primaire, surtout dans des territoires comme le pays Midi-Quercy qui est très vert, très sobre. En fait, on est des ruraux, nous. Hein.
Oui, tout à fait. Mais le but du Shift, c'est de travailler non seulement sur les territoires que le Midi-Quercy, mais travailler aussi au niveau national et international. Et donc, on travaille sur des moyennes. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte sur une moyenne en règle générale, en règle globale. Il y a des gens qui vont moins consommer, qui vont consommer de façon différente. Il y a des gens qui vont plus consommer en fonction de leurs revenus, en fonction de leur éducation, en fonction de leur mode de vie. Mais globalement, il y a des choses à changer. Et comme disait Emmanuel à l'instant, de toute façon, on fait tout système. Et chaque individu fait partie d'un système donné. Et on doit faire boucler l'ensemble de ce système aujourd'hui.
On est aujourd'hui dans ce MAG depuis Nègrepelisse sur une invitation du PETR, du pays Midi-Quercy, une invitation pour une journée liée au tourisme et à l'environnement. Le pays Midi-Quercy a fait venir les shifters autour donc de la thématique des déchets, de la mobilité, des énergies, de l'alimentation. On va parler juste après la musique dans ce MAG des 9 limites planétaires. Ne bougez pas.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river.
FM Kélus, le mag.
De retour dans ce mag enregistré vendredi dernier depuis Nègrepelisse à la cuisine sur une invitation du PETR, du Pays Midi-Quercy qui organise les éco-rendez-vous ouverts aux acteurs du tourisme. Un rendez-vous où les membres du Shift Project nous ont proposé une conférence pour avancer concrètement vers la transition écologique. Petit buffet censuré, c'est à ce moment-là qu'on enregistre donc cette interview avec les trois shifters engagés. Vous nous avez parlé des 9 limites planétaires. Une autre personne a parlé de la Terre sous forme de donut. On parle de changement par le local. C'est quoi les 9 limites planétaires, là, les shifters?
Alors, comment vous regardez tous?
C'est beaucoup de 9.
Les 9, donc, on a le climat, l'eau, la biodiversité, j'en suis qu'à 3.
L'acidification des océans.
L'acidification des océans, biodiversité, les sols.
Le cycle de l'azote.
Le cycle de l'azote, les cycles chimiques, le cycle du carbone, donc c'est chaud. Il y a celui qui n'est pas à l'ozone. Tout ce qui est l'ozone.
Il y en a un qui va mieux.
Voilà, il y en a deux qui vont à peu près bien, c'est l'ozone, et il y en a un autre qui va bien pour le moment, mais qui commence un petit peu chargé. Donc globalement, on regarde ces 9 limites planétaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'Institut de Stockholm qui, il y a quelques années, s'est dit que c'était très compliqué de parler des différentes systémiques. On parlait que du carbone et on s'est dit... Ils se sont dit, on va parler des 9 limites pour que ça soit vulgarisé auprès de l'ensemble de la population, en se disant, Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Il y a des limites faibles et des limites fortes. Il y a des limites faibles, certaines sont dépassées en limites fortes parce que l'on se dit, mais on ne sait pas ce que ça va faire, on ne sait pas où ça va aller. Et ça, c'est des limites fortes. Et il y a des limites faibles qu'on est en train de dépasser. Il y a quelques limites comme l'azote, l'ozone, qu'on a pu arriver à traiter. Et globalement, sachant que tout est systémique, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais par exemple, l'acidification des océans, on sait que c'est dû en partie au réchauffement climatique, au CO2. On sait aussi que c'est dû à d'autres charges, etc. Il y a aussi une autre limite, qui est les métaux. Donc, il y a beaucoup de limites qui sont en train d'être dépassées actuellement. Et il y a certaines limites, on ne sait pas où on va, en fait.
Vous étudiez donc ces 9 limites planétaires pour proposer un schéma global de la direction qu'on est en train de prendre, là, donc c'est-à-dire tout droit dans le mur, hein, on peut le dire. D'ici 2030-2050, ça va commencer à être vraiment tendu. Et là, je parle vraiment pour le territoire du pays midi-quartier, hein, donc même pas de l'échelle globale, de l'échelle planétaire. Vous, les shifters, vous êtes engagés donc, dans ce projet pour... vulgariser tout ça, faire des détours à travers la France. Vous nous venez là de Toulouse sur une invitation du pays midi-quartier.
Oui.
Et donc vous épluchez un petit peu ces données. Où est-ce que vous trouvez vos sources? Et ça va?
Alors ben, les sources, on les trouve dans les sites, par exemple, les sources de Climadiag, c'est des sources qui viennent directement de Météo France. On les trouve aussi auprès du GIEC, on les trouve aussi auprès d'instances environnementales, du ministère de l'Environnement, etc. Et aussi auprès d'un gros travail des Chief Project sur tout ce qui est territoire. Nous permet de travailler. Et oui, ça va bien, parce qu'en fait, venir dans des lieux comme ça, ça rebooste, tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager. Et moi, je me dis que, enfin, personnellement, mais je pense que mes camarades aussi, se disent qu'en fait, c'est loin d'être perdu, parce qu'au niveau local, ça veut bouger. Les Français sont présents, les Français sont là, et globalement, en tout cas en Europe, on sent une vraie prise de conscience et une réelle envie de faire bouger les choses, tant au point de vue national qu'au point de vue local.
Là, vous étiez invité par une collectivité locale, justement, pour faire un état des lieux et pour le présenter aux habitants, les habitants qui se sentent concernés aujourd'hui, donc en particulier sur le thème du tourisme. Ça veut dire qu'il y a une envie, effectivement, d'évolution. Ça confirme ce que vous venez de dire, en fait.
Et l'envie, on l'a chez les professionnels, mais on l'a aussi chez les collectivités, l'office du tourisme, les communes. Et on voit, en fait, aussi qu'il y a une demande du tourisme, de l'agrotourisme, du tourisme plus vert, de contribuer, en fait, aussi grâce à ses actions, par son tourisme, par limiter ses déplacements, acheter local, aller sur les marchés, prendre des produits locaux, découvrir aussi une façon de vivre différente. Il y a une volonté, en fait. Et donc, c'est, en fait, dans tous ces actes de la vie, on est en train de bouger, en fait. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, c'est pas foutu. C'est juste qu'il faut la prise de conscience qu'on essaye de faire avec les shifters. Et aujourd'hui, sur Nègrepelisse, et d'accompagner ce changement tout en proposant des offres pour que les gens puissent continuer à prendre des vacances, s'amuser et profiter de la vie.
Et alors, pour réduire au maximum, donc le maximum, ce serait la réduction d'un tiers des émissions des gaz à effet de serre par habitant. Donc, pour atteindre ce maximum, quelques petits conseils que vous pouvez nous rappeler. Parce que oui, effectivement, ne pas monter le chauffage, mettre un pull, mettre un mousseur sur nos robinets, c'est des choses, on a envie de se dire ça va de soi. Mais moi, j'ai pas de mousseur, par exemple. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils dans chacun des domaines que vous avez explorés là, pour rappeler aux auditeurs que tout est possible?
Alors, les 4 domaines qu'on peut citer, on va commencer par la mobilité. La mobilité, eh bien, c'est simple. Il faut se déplacer en limitant l'utilisation d'énergie fossile, ce qui signifie utiliser soit un moyen électrique comme un vélo électrique ou une voiture électrique, ou carrément passer sur des modes doux comme les vélos ou les transports en commun qui font clairement partie de la solution. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Mobilité qui est très très important. Le deuxième est lié à l'habitat. L'habitat, ça veut dire effectivement, comme on le disait, sur le chauffage. C'est l'élément majeur qu'il faut arriver à réduire. Et pour cela, il y a plusieurs possibilités. Soit on est capable d'investir pour isoler le bâtiment, soit on essaye de vivre avec une température un peu plus faible, en baissant le thermostat, en augmentant le confort personnel, en se couvrant plus, une couverture chauffante, un gros pull, ça peut faire une différence fondamentale pour la consommation en énergie. Le troisième élément, c'est sur l'alimentation. L'alimentation, ce qui est le plus émetteur en termes de gaz à effet de serre, c'est tout ce qui est carné. Dès qu'on utilise un élément carné, en particulier de la viande rouge, on explose tout ce qui est bilan carbone. Alors attention, hein, on ne dit pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, on dit juste qu'il faut la manger autrement, moins souvent, plus qualitativement, en privilégiant les acteurs locaux. Et là, en faisant cela, on arrive à bien diminuer son bilan carbone en visant plutôt des plats carnés tous les 3 ou 4 fois dans une semaine pour un apport protéiné normal, c'est largement suffisant. Et enfin, le dernier élément, c'est sur la consommation des biens. C'est vrai qu'on vit dans une société qui prône l'ultra-consommation. C'est clairement un des facteurs qui déstabilise l'ensemble des émissions à effet de serre. Et pour changer, alors là c'est relativement simple, c'est les conseils relativement classiques. On achète que si on en a besoin, on fait attention à ne pas doubler les usages. Si possible, on réutilise ou on communalise les besoins à travers des prêts de matériel en commun. Ou enfin, on peut tout simplement aussi, une fois qu'on arrive à la fin de vie d'un bien de consommation, le recycler. Et c'est ce que nous, on appelle la théorie des 3 R. Réduire la consommation, recycler quand on arrive en fin de vie, et réutiliser, donc reprendre un élément qui a déjà été abîmé, mais qu'on peut lui redonner une nouvelle vie.
Le conseil qu'on peut donner aussi, évidemment, c'est au lieu d'aller en Thaïlande en vacances, venez en vacances à Nègrepelisse ou dans le pays de Quercy. On y mange bien, on y boit bien, et la vie est belle.
Le PMU d'Quercy s'engage autour de ces thématiques. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, on a le programme Défie-toi, où des familles s'inscrivent pour poursuivre tout au long de l'année, pendant 6 mois, je crois, tout un tas d'ateliers, donc, pour mettre véritablement en œuvre ces conseils, déchets, mobilité, énergie, alimentation. Vous fouillez les données, les chiffres, c'est ce qu'on peut vous demander avant de se dire au revoir. Comment vous en êtes arrivé là? Quelle a été votre motivation à vous?
Pour devenir shifter, moi, ma motivation, c'est une prise de conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et puis, une autre prise de conscience très personnelle, c'est-à-dire que moi, j'ai 2 enfants et je veux qu'ils vivent dans un monde qui soit à peu près acceptable et qui soit surtout vivable. Donc, tout bêtement, c'est très égoïste de ma part, mais c'est pour que mes enfants puissent continuer à vivre dans un monde où on puisse venir dans des lieux comme ici.
Pas mieux pour moi, c'est exactement la même motivation, laisser un monde vivable pour mes enfants et arriver à cette neutralité carbone qu'on appelle tant de nos voeux mais qui aujourd'hui n'est pas encore là.
Oui, contribuer, j'avais réalisé qu'il fallait faire quelque chose mais c'est difficile de savoir ce qu'on peut faire, donc contribuer, vulgariser, agir pour moi aussi, pour moi mais aussi pour qu'on puisse continuer à vivre cette planète, c'était la motivation première.
Merci pour tous les shifters. Vous venez, vous, de Toulouse, sachant que cette association, c'est un collectif qui a essaimé vraiment partout. Hein. Il y en a un petit peu partout. Tout le monde peut faire appel à vous pour que vous fassiez des petits diagnostics, que vous nous mettiez des petits coups de pression à égrener des chiffres complètement affolants. Un grand merci à vous trois.
Merci.
Et on ne va pas tous mourir, c'est bon.
On se retrouve demain pour la deuxième partie de ce mag consacré à un retour sur la journée des échos. Rendez-vous en Midi-Quercy. Le pays Midi-Quercy a invité les membres du Shift Project pour avancer concrètement vers une transition écologique. Demain, on sera surtout avec les professionnels du tourisme venus participer et échanger autour de ces thématiques. Ces mags, vous les retrouverez en podcast sur notre site cfmradio.fr. Avant la deuxième partie, avant la suite, depuis CFM Montauban avec Rémi, c'est les infos et c'est maintenant.